Oh là là. Bravo, merci beaucoup, émission spéciale Maki Festival. Autant vous dire qu'on est sous 52 degrés là dans les studios. C'est encore un vendredi soir sous le signe d'une fête réussie. Merci à la mamise qui organise le festival demain et dimanche. Vous pourrez voir Greg du coup qui s'est très bien échauffé ce soir. Hein. Merci Greg, merci beaucoup. Merci aux mains de Paul-Henri Dimitrius, sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose, à Dimitri Paz, qui est resté avec nous ce soir. Merci beaucoup à Dimitri Lebrun. Ouais, ça fait beaucoup de Dimitri, là. On va s'arrêter ici, on va dire merci à Alexandre Girard, à la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être aussi fidèles. Vous écoutiez Transwip Express, et vous pourrez le réécouter, ce podcast. Tout le monde se moque de moi. Et vous pourrez le réécouter, ce podcast, sur FIP.fr ou l'application Radio France, où vous voulez, quand vous voulez. En attendant, bah, FIP, c'est de la musique toute la vie, toute la nuit.
carburant et d'un placement. L'aviation civile demande ce soir aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vol à l'aéroport d'Orly afin de limiter d'éventuelles perturbations liées aux orages annoncés par Météo France. 26 départements du sud-ouest et du nord-ouest de la France sont désormais placés en vigilance orange jusqu'à ce soir minuit au moins, dont une partie de l'Île-de-France. Au moins 4 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui dans l'accident d'un car qui transportait des adultes et des adolescents ukrainiens sur l'autoroute A81 dans la Sarthe entre Rennes et Le Mans. 11 personnes sont également grièvement blessées d'après la préfecture. Le car s'est littéralement couché dans un fossé. Les 2 chauffeurs ukrainiens sont en garde à vue pour homicide involontaire, annonce ce soir le parquet.
C'était le jour J. Plus de 500 000 candidats ont planché ce matin sur les épreuves écrites du bac français.
Ils étaient précisément 535 301. Voilà pour la précision des élèves de première. C'est toujours pour eux une étape importante et solennelle dans la scolarité. Christophe Vincent pour France Info les a attendus à la sortie du lycée Saint-Just sur la colline de Fourvière à Lyon. Reportage.
En filière générale, les candidats pouvaient disserter sur le mensonge chez Corneille, badiner ou pas avec l'amour comme Musset, ou s'intéresser au théâtre de Nathalie Sarraute. Eva a préféré commenter un texte de Barbet d'Aurevilly.
Au fil du texte, on comprend avec les verbes à l'imparfait, comme quoi en fait c'est des récits, c'est des on-dit, donc c'est pas forcément réel, c'est de l'imaginaire un peu. Je pense que j'aurai une bonne note, du moins j'espère. 14, 15, ça serait bien.
En filière technologique, Alpha et Ninon sont sortis assez contents d'eux.
Je suis à 6 de moyenne en français. Après, j'ai bossé fort toute la nuit. Il faut rendre fière la maman. Avoir la moyenne, ça serait vraiment l'essentiel déjà.
Je me suis plutôt bien débrouillée. C'est surtout le fruit de mon travail. Je suis fière de moi et je pense que ma mère va être fière de moi. J'espère. C'est une des choses qui regarde le plus sur Parcoursup. Et le français, c'est quand même une matière très importante. Donc je pense qu'il ne faut pas la négliger.
Beaucoup préfèrent le commentaire à la dissertation. Prof de lettres modernes, Edith Madinier confirme.
Il y a 2 freins pour la dissertation sur œuvre. C'est la nécessité d'avoir vraiment travaillé l'œuvre en dehors des extraits étudiés pour l'oral. Et puis, la dissertation ouvre davantage la porte au hors-sujet que le commentaire.
Le français compte pour 200 points sur les 2000 du total du bac.
Christophe Vincent à Lyon, enfin, sous une chaleur accablante, Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 6e étape du Critérium du Dauphiné à Combloux en Haute-Savoie. Le coureur slovène s'impose avec plus d'une minute d'avance sur son grand rival, Jonas Vingegaard. Il récupère ainsi le maillot jaune et prend une sérieuse option sur la victoire finale.
Merci Emmanuel Langlois. Dans un instant, nous serons en Turquie avec notre correspondante pour faire le point sur la réplique iranienne contre Israël.
Chaque mois, vous êtes 22,5 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
France Info, première plateforme d'actualité.
Source, Médiamétrie Net Ratings.
France Info, 21h minuit, Hélène Zélani.
Et nous sommes avec Marie-Pierre Véraud, correspondante dans la région. Vous suivez notamment cette réplique iranienne contre les grandes villes israéliennes, notamment Tel Aviv et Jérusalem. Réplique qui était attendue et qui est bel et bien arrivée.
Et oui, parce que l'Iran, vous savez, ne pouvait rester sans riposter après ses attaques les plus massives lancées par l'État hébreu à la fois contre ces sites nucléaires et contre les commandements de l'armée et des gardiens de la révolution qui ont été décapités. Le conseiller spécial du guide suprême, Ali Khamenei, a également été atteint. Des frappes qui ont fait trembler les populations civiles à Téhéran au cœur de la nuit dans des quartiers résidentiels où les hauts responsables ont été ciblés. 6 scientifiques en charge du programme nucléaire iranien ont également été éliminés. Les sites nucléaires iraniens touchés, notamment la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz qui a été frappée à 2 reprises, mais également le site de Fordo au sud de Téhéran et Ispahan dans le centre, des attaques israéliennes qui, selon les autorités iraniennes, ont fait 18 morts et 35 blessés à Tabriz dans le nord-ouest, 78 morts et plus de 300 blessés à Téhéran, la capitale, des bilans bien sûr qui restent à confirmer. Alors donc, en représailles, plusieurs salves de missiles partis ce soir d'Iran vers Israël, vers les centres urbains, vous le disiez, Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, notamment des dizaines de missiles, la plupart interceptés par le dôme de fer qui protège l'État hébreu. Mais un immeuble notamment a été touché dans le centre de Tel Aviv. L'incendie a pris ses habitants au piège. Il y aurait une 40aine de blessés. Les pompiers israéliens rapportent des incidents majeurs. Des explosions ont également retenti à Jérusalem. L'Iran a là dit dit l'État hébreu, franchit des lignes rouges. Israël qui promet que plus de frappes sont à venir. Nous sommes donc, bien sûr, dans une escalade qui inquiète beaucoup dans la région.
Et les appels à la retenue se multiplient, mais ils sont sans effet, Marie-Pierre.
Et oui, particulièrement de la part des pays voisins de l'Iran qui assistent impuissants à cette guerre entre les deux États dont chacun dit jouer sa survie. Les États qui abritent des bases militaires américaines, la Jordanie, l'Irak, les pays du Golfe notamment, se savent à portée de missiles iraniens. Téhéran qui considère les États-Unis comme complices d'Israël et qui avait prévenu qu'aucun pays hôte de ces bases américaines ne serait à l'abri. Les États de la région avaient donc plaidé à la Maison-Blanche pour la voie diplomatique. Ils n'ont pu convaincre Donald Trump de retenir la main d'Israël, d'où ces appels renouvelés à une désescalade, mais qui sont bien sûr bien vains dans le contexte actuel.
Marie-Pierre Véro, correspondante dans la région au Proche-Orient.
Édition spéciale.
Plusieurs hauts gradés de l'armée iranienne ont, vous le savez, été éliminés dans les frappes ciblées d'Israël ce matin, en plus des sites nucléaires et militaires touchés. Parmi eux, Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, connu pour ses diatribes anti-israéliennes et contre l'Occident. Alors, ce corps des gardiens de la révolution islamique, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Valérie Krova?
C'est une armée idéologique fondée par l'ayatollah Khomeini en 1979. Structurée comme une armée professionnelle, cette force est composée de 150 000 membres surentraînés, également appelés les Pasdaran, facilement reconnaissables avec leur uniforme vert bouteille. Ces soldats d'élite sont placés sous les ordres directs du guide suprême. Leur raison d'être est la sauvegarde des acquis de la révolution. Les gardiens prêtent d'ailleurs allégeance à la révolution plutôt qu'à la nation. À l'époque, l'ayatollah Khomeini cherchait à éviter les coups d'État au sein de l'armée, mais aussi à créer une force loyale capable de neutraliser les menaces à la révolution. Les gardiens sont présents dans tous les domaines importants du pays. Ils occupent ainsi des postes clés dans les ministères, l'administration ou encore au Parlement. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad était d'ailleurs un ancien membre de l'unité.
Le successeur d'Hossein Salami a déjà été nommé par Ali Khamenei, l'actuel guide suprême iranien. Il ne peut pas y avoir de vacances au sommet de cette organisation toute puissante. C'est un pilier du régime.
Oui, un pilier sur lequel la République islamique s'appuie quand elle se sent en danger. Hossein Salami, qui vient d'être éliminé par Israël, a été un acteur important de la répression lors des soulèvements populaires de 2019 et plus récemment en 2022 après la mort de Mahsa Amini. Les Pasdaran ont la réputation d'être sans pitié quand il s'agit de réprimer les manifestations anti-régime. Les gardiens de la révolution contrôlent également des pans entiers de l'économie iranienne et à ce titre, ils exercent une influence majeure sur la politique intérieure du pays. Pour terminer, que le département d'État américain a désigné en 2019 le corps des gardiens de la révolution comme organisation terroriste.
Valérie Krova.
France Info, 21h minuit, Hélène Zellani.
23h15 du Fil Info, Emmanuel Langlois.
De nouvelles explosions entendues ce soir à Téhéran et une lueur rouge dans le ciel après que l'Iran a lancé en début de soirée des dizaines de missiles contre Israël en riposte aux frappes aériennes israéliennes d'une ampleur sans précédent qui ont visé la nuit dernière plus de 200 sites militaires et nucléaires sur le sol iranien. L'espace aérien iranien restera fermé jusqu'à samedi. Quant au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il prévient les Iraniens qu'il va falloir s'attendre à davantage de frappes encore. 78 personnes ont été tuées, plus de 320 blessés, dont une large majorité de civils dans les frappes israéliennes d'hier en Iran. C'est le bilan fourni ce soir par l'ambassadeur iranien à l'ONU, alors que le Conseil de sécurité est en réunion d'urgence à New York. Côté israélien, le secours affirme avoir pris en charge 34 blessés dans le centre de l'État hébreu, dont une sexagénaire dans un état critique à la suite de cette attaque de missiles iraniens ce soir. Et puis lors d'une conférence de presse à l'Élysée, Emmanuel Macron lui annonce un renforcement du dispositif Sentinelle après ces frappes qui sera étendue à la totalité du territoire français. L'accident a fait 4 morts, les deux chauffeurs de l'autocar ukrainien.
You know it's true. All I mean now is one. Pop Party, mixé par Laurane.
Sur RTL 2, le son pop rock.
By the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another.
And all my friends just might ask me, I say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say, maybe there must be a solution to the one thing.
C'est le week-end, c'est ABC, le son 80 de The Look of Love. Gros week-end pop rock qui s'achèvera d'ailleurs dimanche soir avec une soirée spéciale. C'est cette année le 10e anniversaire du festival ODP, dont RTL2 est partenaire. Et il y aura le RTL2 Pop Rock Live dimanche soir à Talence, donc près de Bordeaux, que nous vivrons ensemble en direct avec Eric Jean-Jean qui est déjà sur place. Un festival un petit peu contrarié par la météo, puisque la journée d'aujourd'hui a été annulée, mais que je rassure les festivals. Le festival aura bien lieu demain et dimanche pour la clôture avec RTL2 et le RTL2 Pop Rock Club que nous vivrons donc peu avant 19h avec Eric. Retour du mix de Pop Rock Party dans un court instant. Il y aura du beau monde dans ce qui arrive avec Sheryl Crow, Gregory Porter et les Doors. C'est un match-up que j'adore. Ça a longtemps, un petit bout de temps qu'on n'a pas entendu ce morceau. Alors on va se faire plaisir. Merci Laurane. Orchestra Man of in the Dark et puis le Houdini de Dua Lipa. C'est juste après ça sur RTL2.
Pop Rock Station sur les tongs, les lunettes d'Elvis et les playlists qui sentent bon l'été sur RTL2.
Et oui, Marjorie, des morceaux qui font monter la température, des classiques passés au grill, des riffs qui feront fondre vos cages à miel, sans oublier des pépites glacées bien enchaînées.
Du dimanche au jeudi, 22h minuit, RTL2 Pop Rock Station, Marjorie H et Francis Zégut.
Ambiance, soleil couchant et barbe au vent.
Et c'est que sur RTL2.
RTL2 présente la 28e édition du Festival de Nîmes.
Rendez-vous cet été dans le cadre exceptionnel des arènes.
Avec Santana,
Jean-Louis Aubert,
Lamo Mali,
Scorpion, Mika,
London Grammar,
Santa, Zao de Sagazan
et plein d'autres artistes.
Infos et réservations, festivaldenimes.com, point de vente habituel et rtl2.fr.
Les 28 ans du Festival de Nîmes, forcément avec RTL2, le son pop-rock. RTL2 présente l'événement RTL2 Pop Rock Live by Festival ODP Talence.
Dimanche 15 juin, au cœur du parc Peixoto à Talence.
Retrouvez Pierre Garnier,
Boulevard Désert, Saint Graal,
Solane et Lisa Pariente pour une soirée gratuite ouverte à tous.
Plus d'infos sur rtl2.fr. RTL2 Pop Rock Live by Festival ODP Talence.
Un événement RTL2. RTL2.
À Paris et en Ile-de-France, le son pop rock sur 105.9.
Don't you want me?
Ce mix, c'est RTL2.
RTL2.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy.
Buffalo.
Just upon a smile. just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you.
Avec mes amis.
Ok. C'est quoi deux?
C'est pour toi.
J'ai les résultats du sondage express
sur l'ensemble du territoire national.
Pour Paul Pogba, c'est...
C'est pas la fille aux cheveux de l'un.
Mignon.
Eh ben pas grand chose à ce stade. Hein.
Deux réalisateurs américains, George Lucas et Francis Ford Coppola, qui viennent d'émigrer pour s'installer définitivement à Cinecittà.
L'Europe comme horizon de sortie de la crise, pourquoi pas après tout? Mais comme le rappelle Yves Montand, la première solution, c'est le téléspectateur qui la détient.
Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seul qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, Ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Je suis extrêmement déçu. Je m'attendais à un autre langage de la part d'Yves Montand. Il ne peut pas parler d'un problème qu'il ne connaît pas, puisque parler de la crise pour Yves Montand ne correspond pas à la même façon de ressentir la crise comme moi je peux la ressentir aujourd'hui au niveau des fameuses mutations technologiques, puisque je travaille dans le charbon. Pour discuter du problème de la crise, il aurait été peut-être bon qu'on discute, enfin qu'Yves Montand discute de la fiche de paye, qu'on discute éventuellement avec un OS de chez Renault, qu'on discute avec un métallo, qu'on discute avec un gars des chantiers navals, qu'on discute avec un mineur, mais en aucun cas, Yves Montand n'avait le droit de pouvoir parler de la crise, puisque la crise, lui, ne la ressent pas comme moi, je peux la ressentir aujourd'hui.
Ce travailleur déçu est sûrement un Français de l'ancien monde qui refuse de vivre avec son temps. Quelqu'un qui se braque devant l'avenir radieux qui s'offre à lui. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour surfer la vague sur la vague de la crise. Alors, il faut qu'il prenne exemple sur Bernard Tapie. En cette même année 1984, l'homme d'affaires explique sa méthode à Laurent Geoffrin.
Moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné.
Volontiers provocateur, patron, mais aussi homme de médias, Bernard Tapie s'est spécialisé dans le sauvetage des entreprises en difficulté. Plus la crise s'approfondit, plus lui, il s'enrichit.
Vas-y.
La guerre ou la crise, ce sont des événements qui permettent une redistribution des cartes dont seuls ceux qui ont un profil adapté aux problèmes posés vont profiter.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une crise, mais qu'il y a des bons et des mauvais.
C'est pas ça, c'est qu'il y a une nid d'adaptation à un certain nombre de gens à faire face aux questions qui se posent. Un footballeur ne peut pas être mis en cause si vous le mettez sur une bicyclette. C'est pas que c'est plus dur ou moins dur, c'est que c'est pas le même genre de sport.
40 ans plus tard, Yves Montand n'est pas devenu président de la République et l'émission Vive la crise apparaît souvent choquante, parfois comique. Allez la voir sur Internet. Elle est disponible, elle vaut le détour. Aujourd'hui, vive la crise, notre invité François Cusset. Bonjour.
Bonjour.
Historien des idées, professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes auteur du livre La décennie, le grand cauchemar des années 80, publié chez La Découverte en 2006, et de La haine de l'émancipation, publié lui chez Gallimard l'an dernier. On en dira un mot à la fin de cette interview. Alors, vive la crise, vu comme ça, 40 ans plus tard, parfois il nous arrive d'en faire sensible, d'être assez direct dans les mots. Nous avons parlé de propagande. Est-ce que vous partagez ?
Oui, absolument. C'est comme un précipité d'idéologie, mais pur. Vous voyez, un liquide chimique pur. Alors, on pourrait évidemment, avec les extraits que vous avez, qu'on a écoutés, on pourrait penser que les concepteurs ont, je sais pas, fumé des pétards, pris de la drogue, voilà, ou sont pas dans un état normal. Le problème, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, évidemment, il faut se replonger dans le contexte, parce que faire un économie show avec de la fiction, des scénarios un peu délirants comme ça, ne prend sens que dans le contexte historique très précis de cette année 84. Pour moi, les deux grands événements qui, en quelque sorte, accouchent de cette émission, c'est bien sûr le tournant de la rigueur un an avant, donc ce qu'on appelle la désinflation compétitive chez les socialistes qui font ce tournant, qui consiste en gros à préférer le chômage à l'inflation, donc à laisser le chômage s'envoler pour pouvoir...
Et pourquoi ? À quelle fin ?
En fait, évidemment, l'argument officiel a été de dire que la France était en faillite, qu'il allait, voilà, que dévaluation après dévaluation du franc, il allait falloir fermer les frontières. Enfin, en fait, si vous voulez, les scénarios de vivre la crise sont aussi les délires dont ont menacé les Français, les socialistes l'année précédente, en disant désolé, on est obligé de virer à 180 degrés. N'oublions pas qu'en 1981, Mitterrand élu lance une politique de la relance, une politique qui ressemble à celle du Front populaire, une politique généreuse sociale. Retraite à 60 ans, une semaine de plus de congés payés, etc.
Il applique son programme.
Et alors, effectivement, maintenant, ce que disent les témoins de cette époque, Alain Jacques Attali, qui sont peut-être pas les plus honnêtes, c'est qu'effectivement, ils savaient très bien, depuis le départ, qu'ils changeraient à brève échéance, en fait, à moyenne échéance, mais qu'au moins, ils pourront dire aux Français qu'ils avaient essayé et qu'ils n'avaient pas d'autre choix.
Bah, dans le contrat démocratique, ça se tient.
Ça se tient, sauf qu'en vérité, ce pas de recul pour un pas en avant du côté de la rigueur, le pas en avant est délirant. Et là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette gauche-là, est-ce qu'on peut vraiment employer ce mot, de l'entreprise, des solutions individuelles, et du chantage, effectivement, à la paresse, au râleur et au collectif qui égale le goulag, est plus efficace pour le libéralisme et pour les marchés financiers que la droite. Finalement, pourquoi est-ce que les droites conservatrices dans le monde entier ont décidé de gagner la bataille des idées en nous balançant des nouveaux sujets? C'est parce qu'ils savaient très bien que les Fabius, et puis plus tard les Clinton, les Tony Blair, etc., étaient plus efficaces qu'eux, du point de vue là aussi du profit et du capitalisme.
Et vous avez parlé du chômage, comme s'il y avait un choix du chômage, comme si dans le raisonnement de ces gens-là, les libéraux et certains sociodémocrates, le chômage existant permet de mettre une pression sur les forces du travail.
En fait, si vous voulez, il faut vraiment comprendre qu'il y a derrière
J'explique. Genre, si vous ne travaillez pas comme on a envie que vous travaillez, vous n'avez plus d'emploi. Voilà.
Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que derrière le discours économique, qui en fait, enfin, on sait bien que l'économie, c'est une grosse partie d'idéologie, hein, c'est pas une science objective, c'est surtout une façon d'imposer un savoir-être et de critiquer effectivement les attitudes individuelles de paresse, de flemme. Donc l'idée de chômage volontaire, qui est une idée délirante quand on y pense, enfin, à l'époque où explose le chômage, avec. Donc faut voir que l'année 84, d'après le Secours catholique, c'est l'année du doublement, hein, x2, du nombre de cas de détresse sociale, de SDF dans les rues. Donc on est vraiment à une époque de casse sociale délirante, et on dit aux gens, par cette émission, et puis dans les discours politiques, c'est de votre faute, c'est de votre faute.
Oui, il y a la culpabilisation du début jusqu'à la fin.
Ça, oui. c'est Alors, clair. Et vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que finalement, la plus grande trahison de la gauche, elle n'est pas dans l'espèce d'adhésion au capitalisme et dans la trahison de ses idéaux de départ. Mmh. Elle est dans le fait d'individualiser tous les problèmes. La gauche incarne le collectif, le parti, le syndicat, la réunion du dimanche, enfin, vous voyez, on aborde
la manif.
Voilà, on aborde les sujets ensemble. Mmh. Et là, non, rien ne peut être abordé collectivement, tout est de votre faute individuelle, c'est le « c'est vous » de Montand à la fin avec son doigt, hein, « we need you », c'est-à-dire c'est à vous individuellement, égoïstement, qu'appartient la solution. Il n'y a plus de collectif, quoi.
Et ça peut déboucher sur une sorte de darwinisme social, c'est un peu ce qu'il y a dans le discours de Tapie, hein.
Ah oui, complètement.
Vous survivrez si vous adaptez, sinon...
Oui, Tapie, effectivement, il y a l'incarnation de ça. Je crois me souvenir que donc il avait commencé à animer des émissions de télé à ce moment-là.
Ambition.
Voilà, il y a Ambition. Et avant Ambition, il y en a une qui porte ce nom délirant. Je crois que c'est Les bons, la crise et les perdants. Donc je vous rends sur le titre du western. Mm-hmm. Vous voyez, qui n'a pas dû durer beaucoup. Mais là aussi, c'est le principe même de vivre la crise. Hein. Mm-hmm. Il y a des bons. Donc le darwinisme va permettre de les sélectionner. Il y a des perdants, désolé pour eux, hein, de toute façon ils n'étaient pas assez bons. Et il y a la crise au milieu qui est ce truc génial permettant de les départager.
Il faut rappeler, quand on parlait du contexte, il faut vous rappeler que l'école de Chicago a fait des émules, et que les Reaganomics, c'est ça. Et quand Reagan arrive au pouvoir, l'une de ses premières déclarations est de dire « problem state », le problème c'est l'État. Donc tout est dit, et ça va tomber comme un jeu de domino, toute l'Europe. Le cheval de Troie, si je ne me trompe, c'est Margaret Thatcher.
Oui, alors, là aussi, il faut se replacer dans cette époque. Parce que,
oui, c'est pour ça.
Évidemment, depuis le néolibéralisme, enfin le capitalisme débridé, et s'est fait beaucoup moins statophobe. Hein. Il aime bien l'État, hein, depuis quelques années. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'État qui
2008.
Sauve.
Voilà, 2008.
2008, etc. Donc, mais à l'époque, oui, on est dans une époque très idéologique, où qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on voit en librairie? C'est les bouquins de Hayek, de Milton Friedman, et de pas mal d'essayistes.
L'école de Chicago.
Voilà, ou les Alain Minc, vous voyez, ou côté français, qui effectivement vous explique que c'est l'État qui finalement bride les initiatives. Voilà, il faut libérer les énergies. C'est pas par hasard que je vous sors là le slogan, il me semble, de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, hein, libérer les énergies. Parce que, voilà, on peut voir, c'était exactement il y a 40 ans cette affaire, on peut voir là l'origine finalement du macronisme. Puisqu'il s'agit de remplacer la démocratie par la compétence technocratique, c'est-à-dire par une bande de gars, plus que des femmes, il y en a quelques-unes, plus malins que les autres, qui savent mieux que le peuple, qui vont imposer des réformes que les marchés vont apprécier, et pour ça vont prendre les bonnes idées, à droite et à gauche, en dépassant ce vieux clivage droite-gauche. C'est ça l'essence de vivre la crise. Ça ressemble quand même beaucoup au macronisme.
Et quand Emmanuel Macron dit, si vous voulez, du boulot, il y en a de l'autre côté de la rue, bougez-vous, quoi. C'est ça aussi ?
Oui, c'est ce chantage. Ce qui est délirant, si vous voulez, c'est que là aussi, le collectif, c'est quoi? C'est des mesures économiques, c'est des choix gouvernementaux, c'est aussi un ensemble d'intérêts financiers. Hein. 83, c'est l'ouverture de la place financière de Paris, voilà, au marché international. Donc tout ça, c'est des intérêts collectifs. Et on dit aux gens, ça n'est pas eux qui vous ont foutu dedans, c'est vous, par vos mauvais choix et par votre paresse congénitale de râleur français. Voilà. Donc en plus, avec des espèces de clichés délirants. Il y a voilà, psychologie des peuples, hein, d'ailleurs, parce que évidemment, là-dessus, les Américains, les Anglais, les Allemands se marrent. Parce qu'ils disent, évidemment, on reconnaît bien nos Français là-dedans. C'est une poussée idéologique d'une violence et d'une agressivité qu'on n'a pas vue depuis, finalement, parce qu'elle est un peu sans filtre, voilà. C'est une émission sans filtre. C'est ça qui est intéressant. Depuis, on a mis un petit peu plus de pincettes.
Oui, bien sûr.
Là, elle est vraiment sans filtre.
Dernière considération sur l'époque, le choix antisocial aux yeux de beaucoup est doublé d'un choix bien peu pertinent, un choix économique. Les restructurations commencent d'ailleurs sous Giscard, hein, où on pense que l'avenir, c'est le tertiaire. Donc l'industrie, il faut laisser ça aux Chinois. C'est une grave erreur qu'on...
Génération. Hip-hop Soul Radio. Génération.
Keep talking. génération.
Génération.